Gloire à Jésus parce qu'il est bon. Il est notre force. Il donne la vigueur aux corps qui sont fatigués. Il renouvelle nos forces chaque jour et sa bonté n'est point épuisée. Elle se renouvelle chaque matin pour ceux qui le craignent et qui le cherchent. Alléluia. Dis merci au Seigneur parce que tu es présent ce soir. Plusieurs personnes ont désiré être là. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Mais toi, tu n'as pas pu résister à l'appel du Seigneur. Quels qu'en soient les obstacles, tu les as bravés. Et tu es là ce soir pour évaluer. Le meilleur est à venir. Dis merci au Seigneur pour tout ce que tu as déjà reçu depuis le début de ce programme. Et particulièrement dans ce troisième module, le meilleur est à venir. Dis merci au Seigneur parce que ta destinée, ce n'est pas l'échec. Tu n'as pas été programmé pour échouer. Mais tes échecs sont un tremplin pour que tu atteignes ta destinée. Dis au Seigneur merci parce que depuis tu as compris que l'audace fait partie de ton privilège et de ton partage, que tu dois être audacieux, mais un audacieux positif qui sait compter sur le Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que tu es conscient que tu es appelé à rebâtir sur d'anciennes ruines et que tu le feras avec l'Éternel. Dis merci au Seigneur parce que tu as tiré le bénéfice de tes échecs. Dis merci au Seigneur parce que tu as fait le choix d'être meilleur. Et parce que tu as fait le choix d'être meilleur, tu es passé de la douleur à un véritable adorateur. Célèbre le Seigneur pour cela. Demande maintenant au Seigneur de fixer dans ton esprit tout ce qui n'a pas été clair, que ce soir soit l'occasion pour toi de saisir ce que tu n'as pas eu l'opportunité de bien saisir pendant que les serviteurs de Dieu parlaient ici tous les soirs. Dis au Seigneur qu'au terme de ce module, prends l'engagement de ne pas être même personne, d'être une personne meilleure, parce que le meilleur est à venir avec le Seigneur. Merci Jésus, parce que ta force se renouvelle dans notre vie. Merci Jésus, parce qu'au travers de ce module, tu nous as transformés. Tu nous as renouvelés. Nous nous sommes sentis bousculés, mais surtout aimés de ta part. Père, ce soir, nous voulons encore recevoir. Nous voulons que ton Saint-Esprit se charge de nous révéler des choses qui n'ont pas été bien claires dans notre esprit et que nous les saisissons pour l'éternité avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillons nous asseoir. Ce soir, il est question de reparcourir le troisième module, la méthodologie que nous nous proposons consiste à parcourir de façon brève tous les chapitres de ce module, ensuite revenir sur les quelques questions qui ont été posées, échanger là-dessus, et s'il y en a quelques-unes, on les prendra et on entrera au point de prière. Le module numéro 3 est intitulé « Le meilleur est à venir ». Le meilleur est à venir
Parce que dans Jérémie, Dieu dit, voici les projets que je formule pour vous, projets de paix et non de malheur, projets de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans le premier module, choisis d'être meilleur. Choisis d'être meilleur n'est pas une supplication, mais c'est une exigence du Seigneur. Et choisis d'être meilleur nous interpellait à abandonner certaines attitudes telles que le contentement, le manque d'absence de standards élevés. Il y a des personnes qui n'ont pas de standards élevés, qui vont à l'école, ils ne cherchent pas à être premier, mais cherchent seulement à passer. Ça, ce n'est pas avoir des standards élevés. Et je disais à un élève un jour, plus précisément à mon fils, qui est en classe de Form 1, s'est contenté d'avoir 13 de moyenne au premier trimestre. Tout en le félicitant, je lui ai dit que s'il a 13 de moyenne au premier trimestre, il court le risque de passer pour aller en classe de 5e avec 11 de moyenne. S'il ne redouble pas d'efforts, même quand il aura passé pour aller en classe de From 2, entre la classe de From 2 et la classe d'examen, s'il ne fait pas d'efforts, il reprendra une classe. Votre niveau d'aspiration, si vos standards ne sont pas élevés, vous entrez dans le contentement et vous devenez des minimalistes. Vous entrez dans le contentement et vous entrez dans les positions qui vous empêchent d'aller plus loin. Or, Dieu est celui qui étend nos limites. Il y a également la cupidité. La cupidité qui nous pousse à chercher à gagner des fortunes, même sans se préoccuper de la manière. Et l'égocentrisme. Et on avait vu les dangers du contentement, vouloir posséder des choses sans perdre également. Il fallait donc améliorer et innover pour que le meilleur, pour choisir d'être meilleur. Vous ne pouvez pas choisir d'être meilleur et faire les mêmes choses. Si vous faites les mêmes choses, vous resterez sur place. Choisir d'être meilleur, c'est innover, c'est améliorer avec Dieu. C'est accepter d'écouter Dieu vous dire, voici là où je voudrais que tu parles. Quelqu'un qui est un commerçant et chaque jour, il se contente de rentrer avec un bénéfice de 1000 francs. Dès qu'il a ses 1000 francs, il dit, poisson braisé au soir. Il est assuré. Ça, c'est quelqu'un qui n'innove pas. Dès que il se contente, quand il sort de chez lui, il a sa moto. Il dit, ma part de distance, c'est les 100 francs. 100 francs ici, quittez ici, là-bas. Non, moi, je ne veux pas trop de problèmes. 100 francs. Tant que tu n'es pas prêt à innover, à te placer comme ça pour qu'on te prenne en course et qu'on te donne 2000 francs, et que tu trouves des stratégies pour avoir des clients qui vont te donner 2000 francs, 1000 francs, tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas choisir d'être meilleur, tu vas être statique. Au-delà de choisir d'être meilleur, il était également question d'avoir le courage de recommencer. Avoir le courage de recommencer, pas parce qu'on a échoué forcément, on peut recommencer pour être meilleur. Même quand on a réussi, on peut recommencer. Mais quand on a aussi échoué, on doit recommencer en changeant de méthode. Il y a des élèves il apprend 3 heures de temps. En fait, il lit son cahier, non? Il dit qu'il a appris. Ou il fait les exercices et il dit qu'il a appris, non? Il part en classe, il a 10 de moyenne. Celui-là n'a pas appris. Parce qu'avoir 10 de moyenne dans une classe, si vous êtes régulier en classe, vous êtes déjà garanti pour avoir 10 de moyenne. Parce que celui qui suit seulement les explications peut avoir 10 de moyenne. Ce n'est pas un effort que vous avez fourni. Maintenant, ceux qui fournissent des efforts sont dans 12 de moyenne et plus. Ils ont fourni un effort supplémentaire. Donc, quand vous avez des attitudes, vous étudiez 2 heures de temps. Vous êtes en classe de 3e, vous étudiez 2 heures de temps. Ce qui est sûr, vous êtes bien préparé pour échouer. Non, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas réussir, à moins que vous soyez un tricheur. Vous ne pouvez pas étudier 2 heures de temps et réussir. Il faut donc vous faire violence. Il y a un prix à payer lorsque on veut avoir le courage d'aller plus loin. Le prix à payer, c'est qu'on sacrifie son temps, c'est qu'on sait compter sur le Seigneur. On ne compte pas sur soi-même. Et il faut avoir la conscience qu'on a échoué et qu'on n'a pas bien fait les choses pour avoir le courage de recommencer. Ce courage de recommencer nous amenait à soit audacieux. L'audace, on a vu qu'il y avait, on pouvait être audacieux du point de vue positif. Il y avait l'audace positive. Il y avait aussi l'audace négative. Et dans l'audace négative, on a vu plusieurs personnes dans la Bible qui ont manifesté l'audace, telles que Saül, telles que Michal et bien d'autres personnes qui ont manifesté l'audace, mais c'était des audaces négatives. Et on a vu également des personnes qui ont manifesté l'audace positive, telles que David, telles que Anne, qui a été audacieuse, qui a bousculé le Seigneur pour recevoir des choses. Donc, il était question que nous soyons de véritables audacieux. L'audace nous amène à aller au-delà de ce que nous voyons. Ça, c'est l'audace positive. Contrairement à l'audace négative, qui nous amène à critiquer tout. On est prétentieux, on se dit non, ceci ne devait pas être comme ça. Mais on n'a rien à proposer de meilleur. Au-delà de cela, il est question de tirer bénéfice de ses échecs. Tirer bénéfice de ses échecs. Il était question d'abord de montrer que l'échec n'est pas notre destinée et que nous n'avons pas été programmés pour échouer. Mais que l'échec est un tremplin pour que nous atteignions notre destinée. Et que lorsqu'on a échoué, il faut prendre conscience de pourquoi est-ce qu'on a échoué, qu'est-ce qui les origines de notre échec, et d'envisager les solutions ou la sortie avec le Seigneur. Après, on a parlé de bâtir sur d'anciennes ruines. On a dit ce qu'est une ruine et que les ruines peuvent être spirituelles, matérielles, familiales et de plusieurs ordres. Et qu'on pouvait s'en servir de nos ruines pour aller au-delà. Et que lorsqu'il y a une ruine, s'il y a une case qui est tombée en ruine là et vous venez rebâtir au même endroit là, vous voyez toujours la case qu'il faut rebâtir et non la villa ou le duplex qu'il faut construire à cet endroit, c'est que vous n'êtes pas conscient qu'il faut rebâtir. Et rebâtir sur des anciennes ruines faisait aussi appel aux origines de la ruine. Pourquoi est-ce qu'on est tombé dans la ruine et comment en sortir? On a fait plusieurs propositions et dit le projet de Dieu et qu'au terme du projet de Dieu, Dieu te donnait un nouveau nom quand tu t'engageais à rebâtir sur des ruines. Il t'appelait réparateur de brèches, celui qui construit la ville, qui construit la cité. Hier, il a été question de parler de la douleur à l'adoration. On a vu que toutes nos douleurs, on ne doit pas nous apitoyer sur nos douleurs, mais que nos douleurs nous amènent à aller plus loin, à chercher Dieu. Et à être comme Anne, qui au-delà de sa douleur, a rencontré véritablement le Seigneur et lui a dit des prières merveilleuses. et qu'on pouvait faire une expérience avec le Seigneur. Que dans nos douleurs, on soit capable de lui écrire des poèmes et de lui dire combien il est merveilleux, combien notre douleur nous a fait grandir. Et sur ce, je nous invite à lire le psaume 104, le verset 33 et 34. Là, je lis très rapidement pour nous, avant que nous entrions dans les questions. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. À travers donc ce psaume qui nous amène à comprendre que dans notre vie et chaque chose qui nous arrive nous annonce que le meilleur est à venir et que nous ne devons pas nous arrêter. Tant que nous vivons, le meilleur est à venir et nous devons aller plus loin. De façon simple, le module « Le meilleur est à venir ». Si tu veux bâtir un monde meilleur, tu dois impérativement choisir d'être meilleur. Car seules les personnes distinguées font les choses de distinction. C'est ça, choisir d'être meilleur. Dieu ne veut pas que tu sombres dans les échecs du passé ou que tu scrutes les défaites d'autrefois qui ont fait de toi un vulgaire personnage. Le meilleur est à venir. Tu dois espérer et croire que le meilleur reste à venir. De ce fait, tu dois choisir d'être meilleur, avoir le courage de recommencer quand tu as réussi et quand tu as échoué, même si tu te sens tes forces, tu sens tes forces te quitter. Et quand tes forces ne te quitteront pas parce que Dieu est celui qui donne la vigueur aux corps qui sont fatigués, tu dois être audacieux. Être audacieux et avoir le courage et tirer courageusement en bénéfice de tous tes échecs, oser rebâtir sur d'anciennes ruines et passer sans embâche de la douleur à l'adoration. Voilà, chers bien-aimés, de façon ramassée pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre tous les enseignements de ce module, la synthèse que nous pouvons faire de tout ce qui a été dit. Sur ce dont nous allons passer à quelques questions qui se trouvent dans notre panier. Je précise que tout le monde peut répondre à une préoccupation qui a été posée. Bonsoir, chers serviteurs de Dieu. J'ai une préoccupation depuis plus de 2 ans et ça me tourmente vraiment. Le concubinage est un péché. Moi aussi je suis d'accord avec toi et la Bible est d'accord avec toi. En effet, je vis avec un homme depuis plus de 10 ans. Nous avons 3 enfants, sans acte de mariage ni mariage coutumier. Je me demande que faire dans ce cas. Le quitter avec tous ses enfants et attendre qu'il s'engage réellement. Est-il possible qu'il ne soit pas mon mari dont l'homme que Dieu avait prévu pour moi? Est-il possible que l'homme de ma vie soit encore à mon attente? J'attends vos conseils. Alléluia. Bien-aimé, je te félicite. Je bénis Dieu pour ta question. Je bénis Dieu pour ta préoccupation. Mais que dit la Bible à ce sujet? Tu n'es pas marié.
nous sommes d'accord. Tu vis dans le concubinage, nous sommes d'accord. C'est le péché, nous sommes d'accord. Que faire? Quel est le point de départ? Amos 3 dit, 3, deux personnes ne marchent pas ensemble sans être tombées d'accord du but de la marche. Quel a été le point de départ? Qu'est-ce que vous avez convenu au départ? Si vous n'avez rien convenu au départ, il faut encore s'asseoir et redéfinir où est-ce qu'on va. Maintenant, si vous avez convenu que vous devez vous marier, il faut le faire urgemment. Il faut régler votre situation. Mais il faut le faire avec sagesse. Il ne faut pas aller lui dire, « Monsieur, tu m'épouses ou je pars ?» Non. Il ne faut pas le faire comme ça. Ça, c'est manquer de sagesse. Il faut lui montrer ce que vous avez bâti et le projet que vous avez déjà fait. Lui montrer aussi le bien-être que ça t'apporte et que ça apporte à tes enfants et à toute sa famille. Lui montrer que la volonté de Dieu se trouve dans l'officialisation de votre vie pour que vous sortiez de la clandestinité. Au plan civil, dis-lui que quand on compte les familles au Cameroun, on ne compte pas sa part. Parce qu'on compte les familles sur la base des actes de mariage. Ce que vous êtes en train, les actes de naissance de vos enfants, que vous êtes en train de le faire, vous le faites dans le faux. Même si on réussit à mettre son nom là, c'est faux. Parce que pour mettre son nom là, il faut un acte de mariage. Le lui montrer avec amour. Et je suis sûr d'une chose. Si vous êtes sincère et vous êtes une bonne femme, il va le faire parce qu'il estime que c'est une bonne chose. S'il vous l'a promis un jour, saisissez le bon. Alors, peut-être il vous a promis, mais il a promis plutôt polygamie. Entrez encore en négociation et montrez-lui la justesse, le bien fondé d'être l'unique femme de sa vie. Montrez-lui ce bien fondé. Parce que c'est ce que la Bible dit. Les enfants ne signifient pas que vous êtes mariés. Non. Avoir des enfants avec des personnes ne signifie pas que vous êtes leur femme. Il faut aussi mesurer ce qui peut vous arriver si cet homme n'est plus là. Je ne le souhaite pas. Parce que s'il n'est plus là, tout le monde, la famille, là, peut dire qu'on ne vous connaît pas. On peut même récupérer vos enfants et partir avec. Il sera difficile pour vous de vous plaindre et d'avoir raison. Et vous allez être traumatisé toute votre vie. Donc, il faudrait comprendre que c'est un échec. Les choses n'ont pas été faites. Et je voudrais attirer aussi votre attention. Le mariage coutumier, ce n'est pas le mariage. En fait, ce n'est pas le mariage selon les standards de Dieu. Est-ce qu'on vous a donné un acte de mariage là-bas? Il n'y a aucune pièce. On dit seulement qu'on a vu la famille, si on a aussi vu la famille. Ça commence là-bas. Ce n'est pas le mariage. C'est un pro, ça entre dans le processus du mariage. Mais ce n'est pas le mariage. Il faut officialiser votre situation. Et je bénis Dieu parce que dans cette paroisse de Tamja, on offre l'opportunité à tous ceux qui sont dans des situations difficiles comme ça de célébrer les mariages et de les aider à régulariser leur situation. Donc, au prochain mariage de juillet, c'est juillet ou c'est août là, d'exemple, ok, je t'inscris déjà sur la liste. Je prierai pour ça, pour que tu sois inscrit sur la liste. Donc, dernier élément, si tu ne signes pas l'acte de mariage, le texte de Corinthiens ne peut pas s'appliquer à toi, parce que là-bas on parle de quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais qui est marié, qui vivait dans le péché, et que son mari n'est pas chrétien. Est-ce que, comme il est devenu chrétien, devrait-il abandonner son mari? Non, la Bible dit que non. Tu l'as connu étant dans le péché. Maintenant que tu as connu Jésus, tu dois l'aider à sortir de cette situation. Il est sanctifié par toi. Donc, il faudrait comprendre ce que Dieu dit à ce sujet. Maintenant, vous avez posé d'autres questions. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Est-ce que c'était votre mari? Est-ce que Dieu avait vraiment prévu que c'était votre mari? Je ne peux pas débattre d'une situation qui est d'abord irrégulière, n'est-ce pas? Maintenant, si la situation était régulière, là maintenant je peux commencer à répondre. Je ne veux pas chercher à comprendre quelque chose que Dieu ne veut même pas qu'il comprenne. Vous-même, vous avez dit que c'est le péché. Donc maintenant, on va poser la question pour qu'ils disent si c'était vraiment votre mari ou c'était pas pour votre mari, quelque part il vous attend. Non, il faut d'abord régulariser la situation là. Quand vous aurez régularisé la situation, alors se pourra se poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'était le choix de Dieu? Et vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps de vous mettre même en prière par rapport à ce sujet. Mais je ne peux pas répondre, tout simplement parce que la situation n'est pas régulière. Il faut régulariser la situation, ou il faut chercher la volonté de Dieu. Et si c'est l'homme de votre vie comme vous souhaitez l'entendre, alors il va régulariser. Vous allez l'aider ensemble, vous allez trouver les voies et moyens pour régulariser votre situation. Mais en d'exemple, nous sommes là, on va régulariser ensemble, par la grâce de Dieu, votre situation. Je suis membre de l'EEC de Tamja. Mon petit-fils a 11 ans cette année. Il est né un 23 décembre. Voyant qu'il y aura un an de plus, rien que avec ce 12e mois, nous avons résolu mettre sa date de naissance à la même date en janvier de l'année nouvelle. Il veut dire qu'il est né, par exemple, le 23 décembre 2002. Mais ils ont mis qu'il est né le 23 janvier 2003. C'est ce qu'il est en train de vouloir dire. Alors, c'est-à-dire un an, un mois après, je me sens coupable d'avoir accepté ce changement. Il fête son anniversaire chaque année sans le savoir. J'ai beaucoup prié pour ça. Ma question, dois-je lui dire la vérité? Si oui, à quel âge? Aidez-moi. Bon, premièrement, ce que tu as fait n'était pas bon. Ça, c'est les calculs humains. Et ce n'est pas bon. On dit parfois que c'est même pas amour pour l'enfant, non? Que non, on ne veut pas lui gâter un temps. Qu'il ne perde pas une année comme ça. Non. Dieu commence à compter son âge depuis la fécondation. Il a déposé là-bas.
Donc maintenant, le jour où ils viennent, ça, ça ne dépend pas de toi. Dans un village, il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'enterre pas les gens à midi. Et j'ai dit que pourquoi vous n'empêchez pas les femmes d'accoucher à midi? Donc, ça n'a pas dépend, ça ne dépendait pas de toi pour qu'ils viennent le 23. Et on voit parfois les femmes qui font des prières. Seigneur, vraiment, on est à le 25. Vraiment, je veux qu'ils naissent même le premier comme ça. Oui, c'est bien. Mais accepter ce que Dieu fait. Accepter d'abord ce que Dieu fait. Et dites à l'enfant la vérité. Dites-lui la vérité. N'attendez pas qu'il devienne grand. Maintenant là, même s'il est encore à l'école maternelle, il faut lui dire ce que vous avez fait. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire ce que vous avez fait, tout en vous repentant, en lui disant que bon, vous avez mal fait ça, ce n'était pas bien. Vous avez, c'est bien après que vous avez rendu compte que ce n'était pas bien. Mais il faut qu'il sache qu'il est né plutôt le 23 décembre 2002 et non le 23 janvier 2003. Et vous le faites, il fête son anniversaire un jour que ce n'est pas son anniversaire. Vous voyez que vous accumulez et il y a toute une association de personnes qui viennent. C'est son anniversaire. On lui dit joyeux anniversaire. Vous-même, le jour-là, vous dites. Quand vous-même vous dites, ça ne pèse pas dans votre bouche. Il faut être conséquent. Hein? Vous lui dites la vérité. Et quand vous lui aurez dit la vérité, alors, vous prenez la décision que non, on va fêter ton anniversaire le 23 décembre. C'est le jour où tu es né. Même si on a écrit sur ton acte le 23 janvier, mais sache que c'est comme ça. C'est comme ça que vous pouvez corriger. Donc c'est maintenant que vous devez lui dire la vérité. N'attendez, ne cherchez pas un autre âge. Je profite de l'occasion pour répondre à une question que les gens se posent souvent. Si vous avez eu un enfant, son père vous a abusé, vous a trompé, il est parti. Et vous faites cet enfant et chaque jour, vous voyez sa famille qui est en train de passer là. Vous voyez son père, vous dites que vous n'allez pas lui dire son père. Quand il va grandir, il va lui-même, quand il va commencer à poser les questions, vous allez lui dire non. Faites pas ça. Vous dites que parce que son père vous avez fait du mal. Maintenant, vous allez attendre. S'il vient un jour chercher l'enfant, c'est le jour-là que vous allez lui dire. Non. L'enfant, vous êtes en train de lui créer un problème, un traumatisme. Vous êtes en train de lui faire appeler les gens papa, qui ne sont pas, celui qui n'est pas vraiment son père. Quand il appelle, il est conscient que celui qui l'appelle papa, là, c'est son père. Un jour, il vous dit, comment? Tu es ma mère, non? Il dit oui. Comment papa, là, c'est aussi mon papa? Il y a quelque chose qui ne... La femme de papa, c'est telle, non? Mais comment toi aussi, tu es encore ma mère? Je ne comprends pas ça. Tout simplement, parce que vous lui avez donné son grand-père comme papa, son grand-père qui est votre père. Il ne comprend pas comment son grand-père peut être votre père et son père. Il faut lui dire la vérité. Lui dire la vérité. Que ton père, voici telle chose s'est passée, ton père est parti. Prions, un jour il va venir te chercher. Il va venir te chercher. Prions, un jour il viendra te chercher. Ne déversez pas vos frustrations, vos blessures sur l'enfant. Vous dites non, là, ne passe même plus ici. Ne passe. Demain, vous savez, parce que quand l'enfant va commencer à revendiquer, ça sera tout un problème pour vous. Et peut-être vous n'aurez plus l'occasion, son père serait déjà décédé.
vous devriez aller lui montrer une gerbe, une tombe comme ça. Vous ne l'avez pas aidé. Si vous le voyez, dites-lui que voilà, le voilà. C'est ton père. Le jour où il viendra, il viendra. Et les mères sont championnes pour encourager ce genre de choses. Mais qui ne passe pas ici? Je suis passé là-bas, ils m'ont chassé. Non, non, non. Il ne faut pas gérer votre problème et mêler tout le monde en vous. Vous êtes mécontent de lui. Il a mal agi. Mais ce n'est pas pour autant de priver un enfant de son père. Vous n'allez rien changer, c'est son père. Ce n'est pas en disant cela que ça change le fait qu'il soit son père. Ok. Je vais dire à Merveille, qui nous a posé son problème, je ne vais pas le lire parce que c'est un sujet de prière. Je vais l'appeler au téléphone. Elle a laissé son numéro. Je vais l'appeler pour que nous nous entretenions. Elle a un problème. Dernier sujet ou question, autant pour moi. J'ai le don, mais il ne sait pas comment travailler cela. Bon, il veut dire qu'il a un don, mais il ne sait pas comment travailler cela. Je crois que le pasteur Raymond est là. Il va probablement répondre à cette question. Comment reconnaître son couloir? Dans un enseignement, on a dit qu'il faut courir même dans son couloir, hein, reconnaître son couloir. Est-ce que le ministère et le don, c'est la même chose? Non. Le don et le ministère, c'est deux choses différentes. On est appelé à un ministère et on reçoit un don pour manifester quelque chose pour la gloire de Dieu. Le pasteur Raymond est là. Ok. D'accord. Nous allons. Bon, je comprends pas très bien. Hein. J'ai un don. Je ne sais pas comment travailler ce don. Faut pas confondre le don et le talent. Le don, c'est quelque chose que nous recevons de Dieu pour sa gloire. Le talent est une aptitude qu'on peut recevoir soit à travers un apprentissage et qu'on peut forger avec le temps et que cela se manifeste. Maintenant, lorsqu'on a un don, mon ami, si tu ne te déploies pas dans ton don, il devient comme inerte. Donc, c'est comme si tu n'avais plus rien. Je prends un exemple. Si vous avez, par exemple, le don de guérison, et que vous ne manifestez pas ce don, vous n'exercez pas, vous n'allez pas savoir que vous avez le don. Donc, le don n'est opérant que dans l'exercice. Un chrétien qui ne sait, qui... Tous ceux qui chassent les démons n'ont pas forcément le don de guérison. Parce que ça, c'est l'activité de tout chrétien. Parce que certains ont pensé que c'est l'activité des pasteurs. Non, tout chrétien peut prier un démon pas. Mais maintenant, celui qui a le don, il n'a même pas besoin forcément de prier. Il a besoin de déclarer la chose et ça arrive. Ça c'est, et on travaille son don dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. On voit les choses telles que Dieu les voit. On ne voit pas les choses comme les hommes naturels les voient. C'est-à-dire qu'on voit au-delà de ce qui est naturel, tel que Dieu voit. C'est comme ça que je vois la chose. Et c'est comme ça qu'on rend le don opérant. Mais il est entretenu par la communion intime avec Dieu. Comment reconnaître son couloir? C'est toujours en exerçant. Il y a des gens qui sont très habiles dans l'évangélisation.
Et il parle de Jésus. Quand il vous parle de Jésus, c'est comme si on ne vous avait jamais parlé de Jésus. Il y en a d'autres qui ont des dons de conseil, qui, dont leur couloir, c'est de savoir soutenir les gens, conseiller, relever les personnes. Maintenant, si vous laissez votre couloir, qui est de relever les gens qui sont en difficulté, vous dites non, je veux prêcher. Vous allez écrire la prédication. Vous allez prêcher jusqu'à transpirer. Mais personne ne va se convertir. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez un frère qui arrive là, il donne seulement une phrase. Et tout le monde est là. Et tout le monde, ceux qui sont blessés veulent croire, veulent donner, ouvrir leur cœur. La première prédication de Pierre, ça avait duré combien de minutes? Ça n'avait pas fait 5 minutes, hein? La prédication de Pierre, ça n'avait pas fait 5 minutes. Combien de personnes étaient converties ce jour-là? 3 000. Un jour. Donc, il faut reconnaître, ça c'était son couloir. Mais maintenant, le couloir de l'apôtre Paul, c'était un autre couloir. Pour l'apôtre Paul, c'était vers les païens. Or, Pierre s'adressait aux gens qui avaient une connaissance de Jésus, de Dieu. Mais c'est une connaissance erronée. Et quand il déclare la parole, tous ces gens disent, yeah, depuis là, c'était même le Dieu là que nous servons. Voilà le couloir de chacun. Tu es un ancien d'église. Tu veux travailler comme un diacre. Tu n'es pas diacre. Ce n'est pas ton couloir là-bas. Tu vas t'embrouiller. Tu vas t'embrouiller. Va vraiment t'embrouiller. Tu es diacre, tu veux faire comme un ancien ou comme un conseiller. Ça ne va pas marcher. Ton couloir, c'est la louange. Quand tu prends le micro là, dès que tu dis seulement Alléluia, tu vois comment les visages commencent à être. Ton Alléluia donne la joie au visage. C'est ton couloir. Oh, le pasteur peut se lever là, il dit Alléluia, c'est comme un Alléluia acide. Les gens le regardent comme ça. Mais ta part de Alléluia que tu donnes, parce que tu es dans ton couloir, Dieu lui, tu es là, tu es à plein dans ce pourquoi Dieu t'a établi. Et tu es à l'aise. Quand tu ne l'as pas fait, c'est comme si tu n'avais pas existé. C'est ça ton couloir. Quand tu n'as pas couru là-dedans, c'est comme si tu étais un peu dispersé. Et il y a des gens qui veulent trop embrasser. Ils voient ceux qui font ça. Ils disent non, vraiment, je veux que je me déploie aussi comme tel frère. Non, tu peux te déployer un peu comme lui, mais tu ne peux pas te déployer dans son couloir comme lui. C'est ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le couloir. J'ai déjà répondu, est-ce que le ministère et le don, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Le ministère, c'est ce à quoi tu es appelé. C'est tout un service auquel tu es appelé. Le don peut entrer, est une capacité que tu manifestes dans ton ministère ou au-delà du ministère. Voilà, nous allons nous arrêter là. S'il y a peut-être deux questions ou des compléments sur les questions qui ont été posées ou sur des questions qui n'ont pas été posées, prenez la parole. Vous dites votre préoccupation et nous allons, si on doit répondre, on répond. Au cas contraire, nous entrons en prière. Y a-t-il des questions? Oui, levez les doigts, ceux qui ont des questions. Je ne vais pas revenir parce qu'il n'y aura pas une autre série. Je vois, j'ai vu son doigt. Qui d'autre a une question ou une préoccupation? Une, deux. Ok, donnez d'abord le micro ici. Sortez, quittez un peu du baffle, ça va crier là-bas.
Bonsoir bien-aimé.
Bonsoir.
J'aimerais savoir la différence entre l'épreuve et la tentation.
Entre l'épreuve et la tentation, ok. Mm-hmm. Deuxième question.
Merci, révérend. Ma préoccupation, c'est par rapport au thème du 31-3-2019. Si tes bénéfices de tes échecs. L'oratrice du jour avait dit qu'on ne doit pas toucher les choses saintes, n'importe comment. Mm-hmm. Ou bien s'approcher des pasteurs quand ils sont en robe. Mm-hmm. Et je me rappelle qu'une femme, la femme qui, si je ne me trompe pas, la femme qui avait saigné pendant 12 ans, a dû toucher le pan du vêtement de Jésus. Et elle en est guérie. Mm-hmm. Merci.
Ok. Bon. En tout cas, elle est encore là. Peut-être je vais commencer à répondre si elle a un complément elle va apporter. Je commence par la deuxième question. Ne pas toucher les serviteurs de Dieu n'importe comment ou bien dans certains états. Faut pas. C'est vrai, il faut la familiarité, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a eu de très mauvaises habitudes vis-à-vis des serviteurs de Dieu. De très mauvaises habitudes. Bref, elle voulait attirer notre attention sur le respect de cette personne qui est mise à part. Vous voyez, il y a des gens qui saluent même le passé, fait comme ça, non? Ça fait trop de légèreté. Ça fait trop de légèreté. Vous voyez des personnes, le pasteur est en robe, peut-être parce que le pasteur c'est son cousin, mais il ne mesure pas la distance entre le serviteur de Dieu qui est en plein exercice et son cousin. C'est pas pour rien que les enfants des pasteurs, parfois, quand ils sont petits, ils veulent courir vers la chair. Là-bas, lui voit papa. Votre robe, là, ça, c'est pour vous. C'est vous. Donc, il veut courir pour aller arrêter l'habit de papa là-bas, la chair. Il faut qu'on lui cultive en lui la notion que le Père qui est là-bas, c'est le serviteur de Dieu. Donc, il est sacré. Donc, il ne doit pas aller là-bas. Donc, ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'il faut respecter d'abord l'autorité qu'il incarne. C'est pourquoi quand on installe le pasteur, on ne dit pas, vous ne me respectez pas parce que c'est ouété. Non. Le respect que vous devez au pasteur, c'est à cause de sa charge. Parce qu'il est mis à part. Je suis l'enfant de plusieurs parmi vous. Je suis le petit-fils de plusieurs. Mais vous m'appelez papa, non? Est-ce que c'est que je vous dépasse ou que j'ai fait quoi de spécial? Non. C'est à cause de la charge. Et à cause donc de cette charge-là, vous ne devez pas vous comporter de façon désinvolte. On voit des personnes dans des paroisses, des jeunes filles ou des femmes qui veulent aller avec des serviteurs de Dieu. Ça, c'est des drames. Qui font des avances aux serviteurs de Dieu. C'est un peu tout ça qu'elle a voulu relevé. Donc il faut avoir une distance respectueuse vis-à-vis de l'oint de Dieu. Ce n'est quand vous le voyez là, ce n'est pas lui. C'est d'abord le serviteur du Dieu vivant. Et si on veut rentrer dans l'Ancien Testament, on ne s'approchait pas du serviteur de Dieu n'importe comment. On ne lui disait pas. Aujourd'hui, on est dans une vulgarité où des gens peuvent même se lever, critiquer, insulter le serviteur de Dieu en pleine assemblée ou dire non. Il faut faire très attention. Il y a des choses qui sont à... Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être fraternel, n'est-ce pas? On doit être fraternel, mais on doit être très respectueux vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Il y a aussi un autre aspect. On peut ne pas embrasser le serviteur de Dieu ou bien mépriser sa robe, n'est-ce pas? Mais murmurer également contre le serviteur de Dieu, c'est très grave. Myriam en a connu les frais pour avoir murmuré contre Aaron. C'est pourquoi ça ne sera jamais bénéfice pour vous de murmurer sur le serviteur de Dieu. David l'avait compris. Il avait la possibilité de détruire la vie de Saül.
il a dit, loin de moi de mettre la main sur loin de l'Éternel. Pour lui, Saül était loin de l'Éternel. Même s'il avait la possibilité de le tuer, il ne le ferait pas. Donc, il faut que nous cultivons cet esprit du respect. C'est ce qu'elle avait voulu dire. Bon, peut-être elle va ajouter quelque chose.
Merci, Révérend. Je voulais dire à la sœur que nous devons avoir le discernement quand nous lisons la parole. Parce que cette femme qui a couru vers Jésus tenir sa robe, en réalité, c'était dans un esprit de soumission. Quelqu'un qui attend quelque chose, quelqu'un qui voudrait avoir quelque chose. Alors que ce que nous faisons généralement, c'est nous prenons l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, comme un homme vulgaire. Ça fait la confusion. Il est question que nous comprenons l'attitude de cette femme-là et notre attitude aujourd'hui. Elle n'est pas allée vers Jésus avec un esprit d'avilissement. Elle n'est pas allée vers lui comme si c'était un homme ordinaire. Mais c'est parce qu'elle voyait en lui cette puissance qui peut lui apporter le soulagement.
Le texte dit clairement, c'est dit en elle-même, si je touchais le pan de son vêtement, je suis sûr que je serai guéri. Donc, dans Luc 14, verset 4, elle avait la conviction que l'acte qu'elle va poser là, ce n'était pas un acte vulgaire, c'était un acte de foi. Et c'est pourquoi Jésus pouvait réagir. Quelqu'un m'a touché. Et ses disciples ont dit, mais il y a des apôtres autour de toi, tu dis que quelqu'un m'a touché. Parce qu'il avait conscience que quelque chose était parti de lui. Voilà. Alors, quelle est la différence entre l'épreuve et la tentation? Premièrement, l'épreuve vient de Dieu. La tentation ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 4 que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et plus loin, il dit que nous sommes tentés par notre propre convoitise. Donc, la tentation vise la destruction de l'homme. Quand Satan nous tente, en réalité, il nous fait des propositions de séduction pour dire, si tu fais ça, vraiment, tu seras telle chose. Tu peux aussi faire ça. Et la Bible dit que nous sommes tentés à cause de notre convoitise. Ça, c'est pour la tentation. Elle vise ma destruction. Alors que l'épreuve est une situation passagère dans laquelle Dieu veut m'affermir. Dieu veut m'affermir. Il veut forger mon caractère pour me montrer des choses encore plus grandes. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham. Il n'a pas tenté Abraham. Dieu ne tente personne. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham. Ça dit qu'il a testé. Et Dieu, quand il permettra, parce que Dieu permet que tu sois tenté. Quand Dieu permet la tentation, nous dit la Bible, il donne le moyen d'en sortir. Donc, ne fais pas comme cette jeune fille qui était venue me dire, pasteur, vraiment, même je ne voulais pas. On est seulement allé dans la chambre. Après, vraiment, c'est arrivé comme ça. Non. Quand tu entres dans la chambre d'un garçon, avec lui, vous êtes deux. Laisse-moi que tu aies été tenté. Tu n'as pas été tenté. C'est ta convoitise. Et ta convoitise a entraîné le péché. Même là-bas, Satan ne t'a pas tenté. Non. Tu avais programmé tes choses. Donc, la tentation, ça vient du diable. Donc, il y a des choses pour lesquelles c'est la tentation. Et c'est pourquoi dans Matthieu, dans la prière, il est dit, ne nous soumets pas à la tentation. On ne peut pas dire cette phrase, ne me soumets pas à la tentation, si moi-même,
je ne prends pas les dispositions pour ne pas être tenté. Et si moi-même, je ne fuis pas les endroits pour lesquels je peux succomber à la tentation. Tu ne vas pas faire comme les païens qui se disent chrétiens, disent que non. On peut aussi aller en boîte de nuit pour évangéliser. Quel évangéliser? Tu as d'abord fini d'évangéliser les gens qui sont à côté de toi. C'est maintenant là-bas que tu vas aller évangéliser. Après, tu dis, ne me soumets pas à la tentation. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Donc, quand on dit, ne me soumets pas à la tentation, ça veut dire que j'ai pris les dispositions pour fuir la tentation. Mes amis, on ne blague pas avec le péché. On ne blague pas, il faut fuir. L'apôtre Paul dit de résister. Il faut fuir. Ce n'est pas que tu dis non. Vraiment, je suis quand même ferme dans la foi. Je suis affermi. Je sais que si elle marche, je fais comme ça, ça ne va pas. Non, laisse ça. Il faut fuir. Donc, c'est ça la différence entre l'épreuve et la tentation. Et Dieu avait aussi permis que Satan éprouve la foi de Job. Hein? Il a permis pour que, et on a vu ce qui est arrivé à Job hier à la fin, comment la vie de Job a été encore radieuse, mille fois que ce qu'elle avait été au début. Ok, on va arrêter là. On va se lever pour la prière. Remercie le Seigneur pour ce troisième module. Le meilleur est à venir. Dis merci au Seigneur parce qu'à travers ce module, il t'amène à être audacieux selon son cœur, à être un véritable adorateur, à être un réparateur de brèches, à bâtir sur d'antiques décombres. Dis merci au Seigneur parce que tu veux recommencer, parce que le meilleur est à venir. Il y a des situations qui te semblent confuses. Jésus dit, déchargez sur moi vos soucis et vos fardeaux. Dis au Seigneur, je sais que le meilleur est à venir. Même si je ne comprends pas cette situation, je dépose à tes pieds. Être audacieux et avoir le courage de recommencer, c'est aussi affirmer son identité. Dire que désormais, partout où tu vas te trouver, tu vas affirmer que tu es un chrétien véritable selon le cœur de Dieu. Tu vas affirmer ton identité afin que les gens ne te confondent plus. Ô Seigneur, qui est comme toi? Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu prends le pauvre de la poussière, tu le relèves et tu le fais asseoir avec les grands. Pour nous, nous te remercions pour le relèvement que tu nous accordes parce que le meilleur est à venir. Merci Seigneur d'avoir instruit ton peuple, de nous avoir révélé ta sainte volonté. Ô Seigneur, là où nous avons échoué, Seigneur, donne-nous de nous en servir et de tirer les leçons pour avancer avec toi. Seigneur, donne-nous d'être audacieux. Donne-nous d'être motivés par l'amour. Ô Seigneur Jésus, que toute action que nous posons soit motivée par l'amour. Donne-nous par-dessus tout d'être prêts à rebâtir sur des anciennes ruines. Étant nos limites, c'est toi qui peux le faire. À tes pieds, nous nous abandonnons. Saint-Esprit, entre tes mains, nous nous remettons. Fais-le. Fais-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ.